Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, qui sont donc ces rebelles syriens qui font vaciller le régime de Bachar el-Assad ? Il ne leur a fallu que quelques jours la semaine passée pour conquérir Alep, poumon économique et deuxième ville du pays. Et tout aussi rapidement aujourd'hui, eh bien, ils viennent de s'emparer de Hama, une ville également stratégique au centre de la Syrie. L'offensive éclair des rebelles islamistes a pris de court le régime syrien qui lance désormais toutes ses forces dans la bataille. Mais paraît extrêmement affaibli après 13 ans de guerre civile qui a laissé le pays en ruine et plus fracturé que jamais. Et alors que ses alliés, toujours l'Iran et la Russie, malgré leurs assurances de soutien sans faille, eh bien, semblent plutôt regarder ailleurs. Le régime syrien peut-il survivre à cette offensive fulgurante et quel rôle jouera la Turquie qui appelle ce soir à une solution politique d'urgence ? On en parle avec nos invités, en ligne avec nous, Thomas Pierret, chercheur à l'IREMAM, laboratoire rattaché au CNRS et à l'université Aix-Marseille, spécialiste de la Syrie, auteur de Baas et Islam en Syrie. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à mes côtés dans ce studio, l'ancien ambassadeur de France en Syrie, Michel Duclos, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous, bienvenue sur RFI. Tout d'abord, Michel Duclos, qui sont ces rebelles, ou plutôt cette coalition hétéroclite emmenée par le groupe islamiste radical HTS, Hayat Tahrir al-Sham?
Alors, il y a eu en fait deux offensives consécutives et qui ensuite se sont rejointes. La première et la plus importante vient de la poche d'Idlib et elle est dirigée par ce personnage un peu flamboyant et qui dirige un groupe au départ certainement très islamiste, djihadiste, rattaché, comme chacun sait, aux centrales djihadistes les plus classiques, et qui petit à petit s'est recentré sur un agenda plus national.
Alors il s'appelle Abu Mohamed al-Joulani.
Voilà,
Joulani. C'est de lui dont on parle.
C'est lui dont on parle. Qui s'est sculpté un personnage, il a enlevé les habits islamiques, il a taillé sa barbe, il a revêtu un costume plus classique. Et d'ailleurs, depuis quelques mois même, il calque un peu sa manière de s'habiller sur Zelensky.
Après avoir taillé la route en Irak dans sa jeunesse, aux côtés d'Al-Qaïda, puis de l'État islamique. C'est un revirement complet pour Joulani.
Peut-être pas complètement complet, mais en tous les cas, c'est un revirement significatif, ce qui prouve que c'est quelqu'un, en tous les cas, qui a un sens politique. Et en plus, c'est un très bon organisateur, puisque depuis 2 ans, il a vraiment structuré non seulement son propre groupe, mais les groupes rivaux ou voisins dans son enclave d'Idlib, pour en faire quelque chose d'assez cohérent et finalement d'assez efficace. Alors, il faut dire aussi que vous aviez beaucoup de jeunes gens qui ont été déplacés du reste de la Syrie quand ils avaient 15-16 ans et qui maintenant arrivent à un âge où ils peuvent être enrôlés, ou d'ailleurs je crois qu'ils ont envie de se battre, très sincèrement. Donc ils disposent d'une force de manœuvre importante qui a été, comme bien entendu, un peu aidée, c'est le moins qu'on puisse dire, par les Turcs. Mais c'est quand même un ensemble de groupes différents et une force différente des autres groupes qui, eux, ne sont pas dans la clave d'Idlib, mais sont plus à l'est d'Alep, et qui, eux, sont une série de bandes moins organisées et sans doute plus directement liées ou dirigées par la Turquie.
Alors, Thomas Pierret, Michel Duclos nous décrivait cette mue idéologique de Joulani. Est-ce que pour autant, il reste aujourd'hui un djihadiste? Comment l'appeler? On prend le vocable rebelle. Quel est-il aujourd'hui à votre sens?
Alors, je ne parlerai plus effectivement d'un groupe djihadiste parce que, bon, pour moi, le djihadisme renvoie précisément à un agenda transnational tel que celui d'Al-Qaïda, comme ça a été mentionné par Michel Duclos, et que clairement HTS n'est plus du tout dans cet agenda. Ça reste un groupe islamiste, c'est sûr, mais donc avec un ancrage local et un agenda local, pas local en tout cas, national. L'objectif, c'est Damas, c'est le contrôle de la Syrie. Et d'ailleurs, avec déjà une manière de se comporter, je dirais presque en chef d'État, mais respectueux, enfin en tout cas dans le discours de la souveraineté des États voisins, puisque El Jolani, par exemple, aujourd'hui a adressé un message très officiel au premier ministre irakien Soudani, en lui demandant d'empêcher l'envoi de paramilitaires irakiens pour soutenir le régime et en lui disant que la Syrie respecterait toujours les intérêts de l'Irak. Rebelle, bon, c'est de mon point de vue un terme technique, en ce sens que c'est pas politique. Il peut très bien y avoir des rebelles islamistes ou non-islamistes, mais en l'occurrence, HTS est un groupe de rebelles d'obédience islamiste.
D'accord, c'est pas des combattants démocratiques, mais ils sont pas là pour appliquer la charia, ça résume les personnages.
Si, et bien sûr qu'ils veulent appliquer la charia dans les territoires qu'ils contrôlent, mais ça, je dirais, c'est pour ça qu'on parle d'islamiste. Là où la différence avec ce que j'appelle les djihadistes, c'est justement le fait de ne pas s'inscrire dans des objectifs transnationaux, avoir des volontés d'aller combattre dans les pays voisins ou de commettre des attentats à l'autre bout du monde. C'est là que se joue réellement la différence. Et aussi parce que quand même, en termes même de le type de régime islamique qu'ils ont de toute façon déjà imposé à Idlib, est quand même très différent de ce qu'on avait pu voir à Raqqa, par exemple, à l'époque de l'État islamique.
C'est complètement différent. Ils n'obligent pas les femmes à se voiler, par exemple.
Alors, c'est un peu plus. Il y a quand même une loi qui a été récemment votée qui prévoirait quand même une obligation pour les femmes à partir de 12 ans. Alors, on est dans des luttes de factions, c'est-à-dire. En gros, HTS est face à des lobbies différents. Il y a des lobbies très conservateurs qui veulent imposer ce genre de choses. Il y a des investisseurs qui ouvrent des centres commerciaux qui aimeraient avoir un peu plus de liberté parce que c'est bon pour le commerce. Il y a bien sûr le regard des acteurs étrangers, notamment tout ce qui est humanitaire, etc., et qui n'ont pas envie de s'investir dans un endroit où on imposerait des normes islamiques trop strictes. Donc, Jolani, de manière très pragmatique, évolue entre ces différents groupes d'influence.
Il y a un test quand même, c'est que
Michel Duclos.
Il y a un test quand même, c'est que les messes sont dites le dimanche dans les régions qu'ils contrôlent. Et ça, c'est quand même quelque chose qui le distingue fondamentalement des plus durs des islamistes.
Absolument.
Alors, le groupe HTS coopère depuis longtemps avec la Turquie. Quel rôle, Michel Duclos, Ankara a-t-il joué dans cette offensive rebelle? On a entendu ce soir le président Erdogan appeler son homologue syrien à trouver d'urgence également une solution politique.
Alors, on en est réduit, bien naturellement, aux hypothèses. Mais une hypothèse qui me semble tient la corde, c'est que Erdogan ne souhaitait pas au départ que ses protégés, sortent de l'enclave d'Idlib et mettent le feu aux poudres, puisque lui-même était engagé dans une démarche de réconciliation avec Assad. Il souhaitait renouer avec Assad, pas par altruisme, mais pour pouvoir renvoyer un certain nombre de réfugiés syriens qui sont en Turquie actuellement, les renvoyer en Syrie. Et ce, devant l'obstination de Assad à refuser cette main tendue, qu'à un moment donné, Erdogan a dit à ses protégés, si vous voulez vraiment y aller, allez-y. Est-ce qu'il avait anticipé que Jolani et ses camarades iraient jusqu'à Alep, prendraient la ville et ensuite descendraient vers d'autres villes? C'est pas complètement certain quand même. Ça, il y a eu un élément de surprise qui est dû à l'absence de réaction des armées d'Assad et au fait qu'il n'y avait plus effectivement d'Iraniens et surtout de gens du Hezbollah pour tenir la main aux forces d'Assad. Et que les Russes, comme vous l'avez signalé, avaient eux-mêmes beaucoup baissé leur garde.
Thomas Pierret, quel est l'intérêt de la Turquie de soutenir ces rebelles syriens? Michel Duclos l'a dit, peut-être, sans doute, pour renvoyer une partie des 3 millions de réfugiés syriens sur son sol. C'est aussi l'occasion de nettoyer la menace kurde à sa frontière sud.
Je pense que c'est assez secondaire en ce qui concerne cette offensive en particulier. Alors effectivement, la deuxième opération qui a été lancée 3 jours après celle d'HTS, hein, donc par ce qu'on appelle l'armée nationale syrienne depuis le nord, a effectivement éliminé une espèce d'enclave ou de saillant contrôlé par les forces démocratiques syriennes dans la ville de Tel Rifat. Mais ça n'était pas un enjeu stratégique majeur au sens où le gros des forces et des possessions territoriales des forces démocratiques syriennes se trouve à l'est, hein, dans la vallée de l'Euphrate. Donc cette opération qui concerne vraiment l'ouest de la Syrie, je dirais qu'elle est assez secondairement liée à la question turque, la question kurde, et que même dans le cas de cette ville de Tel Rifat, ce qui intéressait surtout la Turquie, c'était de pouvoir y renvoyer des personnes qui ont été déplacées lorsque les forces démocratiques syriennes ont pris la ville en 2016 avec l'aide de la Russie à l'époque. Donc vraiment, la préoccupation majeure de toute cette opération, en tout cas du point de vue de la Turquie, c'est effectivement la question des déplacés, la question des réfugiés, qui est une question qui est devenue extrêmement toxique pour le parti au pouvoir en Turquie depuis plusieurs années, qui lui fait perdre alors pas des élections nationales, mais des élections locales, hein, y compris dans des grandes villes comme Istanbul et Ankara.
Comment expliquer une offensive aussi fulgurante, Alep en 72 heures, 4 jours après, Hama, Michel Duclos?
J'ai fait allusion, c'est la faiblesse de la défense. Les troupes d'Assad sont totalement épuisées. Leur encadrement à cet endroit-là n'était pas très fort. Et elles tenaient surtout grâce à l'appui des Iraniens et des Russes et du Hezbollah.
C'est l'absence du soutien des alliés de la Syrie qui fait que les rebelles peuvent poursuivre leur offensive de manière aussi rapide.
Voilà, et d'ailleurs les officiers d'Assad qui ont abandonné le terrain sans combattre ont dit, selon une expression classique dans la région, nous avons été vendus par les Russes, nous avons été vendus par les Iraniens, autrement dit, on n'a pas eu le soutien qu'on pensait avoir, qu'on avait eu jusqu'ici. Alors le personnage de Golani, donc le chef de HTS, est intéressant parce que on peut se demander si il n'a pas comme modèle le Hezbollah et donc Nasrallah dans une version sunnite. Et apparemment, il se calque un peu sur ce modèle pour apparaître comme un chef de guerre, certes, mais plus ambitieux que d'être un simple chef de guerre. Jusqu'ici, je ne croyais pas qu'il avait pour objectif de prendre le pouvoir à Damas, mais peut-être que l'appétit vient en mangeant.
Face à cette poussée des rebelles, est-ce que le régime syrien est vraiment en danger? Est-ce qu'à un moment ou un autre, la Russie ou l'Iran peut envoyer plus de troupes, plus de moyens pour aider Assad, Thomas Pierret?
Ben, je pense que ce qu'on a vu ces deux derniers jours est extrêmement frappant. C'est-à-dire que la division qui défendait Alep, en tout cas en parlant des soldats du régime, qui était la 30e division, était une très mauvaise division, faible, corrompue, avec beaucoup de désertions, etc. Une très mauvaise réputation. En revanche, Hama, qui vient de tomber, était supposément défendu par la 25e division, qui était au contraire présentée comme l'élite de l'armée syrienne. La division qu'on envoyait sur les terrains difficiles quand la situation était presque désespérée et qui, durant la phase précédente de la guerre, alors elle portait un autre nom, mais peu importe, était censée retourner et arrivait parfois à retourner la situation. Et là, rien du tout. C'est-à-dire que le siège de cette division a été pris par les rebelles assez tôt et on a l'impression qu'elle s'est évaporée ou que ces soldats sont partis en courant. Et là, ça laisse penser quand même que le régime est vraiment dans une situation militairement assez catastrophique. Et se pose vraiment la question de savoir ce qui lui reste. Alors, il lui reste peut-être de quoi défendre Damas et peut-être Homs. Mais alors, effectivement, il peut y avoir un sursaut des alliés. Le régime a officiellement demandé l'aide de l'Irak, sachant que...
Il y a déjà des soldats irakiens qui sont venus prêter main forte aux troupes d'Assad.
Mais il y en a toujours eu, c'est-à-dire que depuis 2012, il y a des combattants irakiens, chiites, paramilitaires en Syrie. La question, c'est de savoir s'il y a, est-ce qu'il y a vraiment une mobilisation réelle. Hein. C'est difficile de savoir ce qui relève des déclarations, des rodomontades ou d'une réelle volonté d'aller se battre. Et voilà, je serais tenté de penser que s'il y a un vrai effort militaire des alliés du régime, en tout cas du côté de l'axe iranien, puisque ces combattants irakiens sont commandés par l'Iran directement, ce serait plutôt pour protéger ce qu'ils appellent le corridor, c'est-à-dire le corridor terrestre qui relie la frontière irakienne à la ville de Damas. Donc, il se trouve plus au sud que l'endroit où il y a les combats actuellement. Ça me paraîtrait peut-être plus plausible que le fait de vouloir remonter vers le nord et chasser les rebelles, ce qui semble, en tout cas pour l'instant, devenir quand même très compliqué.
Alors, on a entendu l'inquiétude aujourd'hui du patron des Nations Unies, Guterres, qui dénonce un carnage et une faillite collective dans la recherche de cette solution politique. Comment peuvent réagir les voisins, déjà Israël et puis les États-Unis, Michel Duclos, qui ont des soldats au sol dans le nord de la Syrie par rapport à cette situation nouvelle?
Dans le nord-est.
Dans le nord-est,
qui
oui.
N'en ont pas beaucoup.
En soutien aux forces démocratiques syriennes et des Kurdes.
Ben, jusqu'à hier, je vous aurais dit il y avait plusieurs types de négociations qui auraient pu s'engager. D'abord, Assad aurait pu se décider enfin à appeler Erdogan pour dire « c'est un malentendu, j'ai toujours souhaité m'entendre avec toi, arrêtons les frais et discutons ». Un autre type de négociation, c'est qu'au-delà des Turcs, les Russes, d'autres peuvent s'entendre sur une option, on fiche la paix à Assad si les Iraniens décampent pour de bon, militairement.
Mais pour laisser la place à un pouvoir aux mains d'islamistes?
Non, parce que dans cette hypothèse, il y aurait un deal, et donc le pouvoir d'Assad conserverait Damas et au-delà de Damas, parce que les Russes, vous savez, sont... à Tartous, donc sur la côte, en zone alaouite. S'ils perdent, notamment la prochaine étape, vous l'avez mentionné, après Hamas et Homs, là, ils se trouveraient coupés de Damas. Donc là, ça paraît quand même assez difficile pour eux à accepter. Mais on aurait pu imaginer un deal dans lequel les Turcs et les autres s'entendent pour laisser à Assad, Damas, Tartous, quelques circuits comme ça, quelques routes qui permettent aux uns et aux autres de circuler. Maintenant, si l'offensive va trop loin, ce type de scénario, effectivement, risque d'être périmé. Est-ce que les Russes, les Iraniens et d'autres ont les moyens de se réengager pour défendre plus sérieusement le régime? Est-ce que aussi ils ne peuvent pas être tentés de se débarrasser d'Assad pour mettre en place un pouvoir plus capable de se battre? Ça fait partie des questions qui se posent maintenant.
Thomas Pierret, est-ce que, à défaut d'un renfort et d'un soutien plus important de ses alliés, Bachar el-Assad va être contraint de négocier à un moment ou à un autre?
Je ne le pense pas. Je pense que Assad préférait devenir président d'un mini-État sur la côte syrienne plutôt que négocier. Il n'y a rien dans l'histoire du régime qui montre une quelconque capacité à quand je parle de négocier, c'est-à-dire négocier par exemple un partage du pouvoir. Ça me paraît totalement inconcevable. Et la nature, la manière dont ce régime est construit depuis 60 ans maintenant empêche toute forme de partage du pouvoir. S'il y a une négociation, ce sera sur d'éventuelles délimitations de zones de contrôle militaire.
Et on y reviendra. Merci beaucoup Thomas Pierret, chercheur à l'IREMAM, spécialiste de la Syrie, auteur de Basse et Islam en Syrie aux éditions PUF. Merci également à Michel Duclos, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et ancien ambassadeur de France en Syrie. Mes merci vont également à la cellule invitée Sigrid Azeroual.